Ouellette.
Non. Écoute, là, franchement, là...
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Moi, ça me dérange pas d'avoir l'air niaiseux des fois en posant des questions. J'ai appris ça jeune. Quand j'étais jeune, j'avais de la misère à poser des questions parce que je me sentais niaiseux.
Ouais.
Je me disais, je suis posé tout savoir. Moi, dans la vie, comment ça que j'ai des questions? Jusqu'à ce qu'un prof vienne me dire, ce qui est niaiseux, c'est de pas poser de questions quand tu le sais pas. Fait qu'hier, j'ai contacté notre chroniqueur Vincent Gélozo. Et je lui ai dit, « Monsieur Gélozo, vous êtes prof au George Mason University. Vous êtes économiste senior à l'Institut économique de Montréal. » Pouvez-vous m'expliquer comment on fait pour faire un fonds souverain sans avoir de surplus de rien? Et je ouvre le micro et je lui demande, Monsieur Gélozo, je sais que j'ai la niaiseux, mais pouvez-vous m'expliquer?
Ben écoute, tu commences fort. Je dirais que la chose qu'il faut probablement, puis que tu as très bien compris, donc tu as un peu comme déjà scié un des points que j'allais, une des branches que j'allais essayer de développer.
Mais si on l'a comme faut, là.
Ben, tu peux pas faire un fonds souverain si tu n'as pas de surplus. Il doit être alimenté par des vrais surplus. Sinon, tout ce que tu es en train de faire, c'est que tu dis, oui, j'achète des actifs, mais j'achète des actifs avec une dette. Fait que tu n'as pas de, changement dans la position nette de l'État. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui dit je vais aller m'enrichir en allant prendre des dettes. Mais tu peux prendre des dettes si tu fais des investissements. Il faut que tu sois capable de les faire, mais techniquement, à moins que les investissements soient meilleurs que ce que le marché peut générer, ben tu dois espérer plus de rendement que le coût d'emprunter. C'est ça que la seule chose qui peut fonctionner. Le problème, c'est que, puis ça, c'est peut-être les deux autres points. C'est que l'État, quand il essaie de faire un rôle d'investisseur actif, il est très mauvais. Ouais. Il est vraiment pas très bon comme investisseur actif.
Là, mettons là, que j'essaie de comprendre, parce que là, ceux qui nous vendent ça, Vincent, c'est quand même le PM et le ministre des Finances, dont un des deux est a quand même une renommée mondiale en tant que banquier et acteur de la haute finance. Je me dis, il peut pas se tromper dans ses termes à ce point-là. Fait que là, je suis tombé en réflexion. Je me suis dit, bon, d'habitude, les fonds souverains, c'est établi sur des surplus souvent reliés à des ressources naturelles, parce qu'on nous a, d'ailleurs, tu sais, osé nous mettre la Norvège et son fonds souverain dans la même phrase. Je trouvais ça quasiment insultant. Fait que j'ai essayé de comprendre. Et là, je me suis dit, peut-être qu'on considère maintenant que l'emprunt avec faible taux d'intérêt, parce qu'il nous dit qu'ils ont une super cote de crédit, et les contribuables qui financent, peut-être c'est rendu notre ressource naturelle principale. C'est peut-être ça, là. Peut-être que le contribuable est devenu une ressource naturelle, je sais pas.
Je pense pas que c'est une ressource naturelle.
Tu comprendras, je fais des blagues.
contrairement à du pétrole, il peut se déplacer. donc, tu sais, tu peux perdre ta ressource d'une certaine manière parce que les contribuables ont une certaine mobilité.
La ressource est sauvée.
Donc, sur le premier point, tu peux pas faire un fonds souverain si tu n'as pas des surplus budgétaires ou des rentes qui viennent, des redevances, si tu veux, qui viennent de ressources naturelles, le pétrole, l'eau, les forêts. C'est généralement ces éléments-là que tu as besoin. On n'a pas ces éléments-là. Donc, un fonds souverain sans surplus, c'est de la gestion de portefeuille à crédit, là. C'est rien de plus que ça.
Mais comment expliquer qu'ils nous vendent ça de même? Tu sais, je veux dire, ça, c'est soit on considère vraiment que maintenant le quotient général est assez bas pour dire n'importe quoi, ou on se fie sur le fait que le elbows up est tellement fort au Canada que les gens vont passer par-dessus ça. Moi, j'essaie de comprendre comment tu peux être un économiste ou un banquier et venir vendre ça au monde alors que ça a été presque instantané, là. Tous les économistes que je connais, toi inclus, tu es en train de nous le prouver, que j'ai vu réagir à ça, ont tous été complètement fiberglassés. Là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un fonds souverain, ça, tu sais, je veux dire. Donc, l'objectif, parce que des fonds d'investissement, Vincent, à moins que je me trompe, là, au Canada, on est bien garnis, là. Ils viennent de sortir la banque d'infrastructures. Il y a le fonds pour les infrastructures, le fonds pour... Tu sais, c'est pas comme si on n'avait pas de ça, là.
Ben écoute, je te dirais que ici, ce que tu vois, c'est... Puis contrairement, par exemple, à Pierre Poilievre, je pense pas que Mark Carney est un mauvais économiste. Je pense que c'est un bon économiste, mais qui ne comprend pas la différence entre l'étude de l'économie et l'acte des politiques économiques, parce qu'il a ce que j'appelle, ce qui est appelé en anglais, le la faille de la planification centrale, c'est de penser que parce qu'il comprend l'économie, il peut la planifier et il peut réarranger les marchés d'une manière
ouais.
à ce qui peut générer plus de croissance que ce qui existe. Mais c'est vraiment c'est une déception qui est faite, qu'il se fait à lui-même, je pense. Parce que une fois que tu dis « je vais prendre des fonds puis je vais essayer de surperformer le coût de la dette que j'emprunte », ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable d'identifier les projets qui sont rentables. Il faut qu'il soit capable d'identifier ce qui est des innovations alors qu'il n'y a pas de fonction de profit, lui, comme personne. Là. Il n'y a pas de profit qui fait... Une banque fait des profits en pensant à une firme qui fait des innovations. Fait que là, tout ce que je viens de te décrire là, comme exemple, c'est ce qui nous a donné Nordvolt, Lyon Électrique, l'affaire des ballons de Pierre Fitzgibbon qui devrait pour toujours rester un des trucs les plus ridicules que j'ai jamais vu en termes de politique économique, de penser que subventionner des ballons dirigeables, on penserait que ça serait mort depuis la fin du Hindenburg, mais apparemment pas. Donc, ce que tu as, c'est que tu as le problème d'identifier les projets. Mais en plus, et ça, c'est la chose que personne ne veut souligner, c'est que le politicien a maintenant accès à un fonds, une réserve de capital qui est hors budget, et ça crée des incitations politiques qui sont encore plus dangereuses que juste le problème que je viens de te décrire de connaissance, et qui peut maintenant se servir de ce fonds-là pour redistribuer pour des fins politiques. C'est la même chose qui se passe, par exemple, dans les périodes de récession, puis on dit on va faire un stimulus fiscal, puis on va essayer de prêter à des industries. Qu'est-ce que tu vois? Tu as des rapports du vérificateur général qui dit que le gouvernement Harper, quand il a fait ses dépenses de stimulus, il les a données dans 8 comtés au Québec. C'était 8 comtés qui avaient besoin de gagner. Donc, il va redistribuer, pas selon des directives économiques, des impératifs économiques. Il va le rediriger selon des impératifs politiques. Donc, tu perds encore plus de l'efficacité, de la supposée efficacité que tu es supposé avoir de ça, parce que tu as un double problème, celui des incitations politiques et celui du problème de connaissance du politique pour comprendre quel projet est valide, quel projet ne l'est pas. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu te retrouves avec des pertes économiques massives et tu répètes des choses comme Nordvolt, tu répètes des choses comme les ballons dirigeables que j'ai déjà mentionnés. Puis, c'est la même chose en passant qui est en train de se faire aux États-Unis avec Donald Trump.
Et est-ce que
c'est la même chose.
Mais à force de le haïr, on va le copier, tu sais, je veux dire, c'est pas... est-ce que... parce que, tu sais, je pensais à Mark Carney et à, pendant que tu parlais, là, est-ce qu'on a affaire à une espèce de pit à conflit d'intérêts aussi? Parce qu'on sait que maintenant, à chaque fois que Mark Carney se déplace dans un pays pour signer des ententes commerciales, il y a Brookfield qui débarque 3 semaines après pour investir 8-9 milliards dans exactement ces domaines-là. Est-ce qu'on est devant un truc qui pourrait devenir un grand gouffre de... Puis là, je parle de Brookfield, mais il y a d'autres ministres, il y a d'autres politiciens qui ont des intérêts ailleurs. Ça devient une espèce de gros pot de miel, ça, là?
Écoute, je ne vais pas aller là, tout simplement parce que c'est pas mon domaine d'expertise.
Non, mais je veux dire, s'il y a de l'argent et qu'il y a des compagnies qui peuvent investir, avoir de l'intérêt et surtout profiter de ces montants-là... Ça, je dis pas que ça l'est, je dis que ça peut devenir un grand trou où on va attirer des affaires qu'on veut pas attirer. Là.
Bien, moi, ce que je te dirais, c'est que même si tu as raison, ça fit dans mon argument le plus large possible, mais c'est pas nécessaire pour mon argument. Dans le sens que le point, c'est que même si, disons, tu n'avais pas cette histoire-là, qui, honnêtement, moi, je pense que c'est une distraction du point de substance, si tu n'avais pas ce problème-là pour Mark Carney, cette espèce d'épine politique, tu aurais quand même le problème parce qu'il pourrait facilement dire « ben écoute, on a des projets, puis c'est peut-être pas le projet le plus rentable, mais il va dans des comtés en Ontario qu'on a besoin de conserver. » Fait que, ben, ça va,
un outil politique, carrément, à tous les niveaux.
Ça devient un outil politique, que ça soit détourné à des fins personnelles ou que ça soit détourné à des fins électorales, c'est la même nature d'argument de la perversion des fonds publics pour des fins qui ne sont pas liées à celui de l'économie et qui s'ajoutent au problème de connaissance, comment est-ce que même si c'était parfaitement désintéressé, tant personnellement que ouais, électoralement,
c'est problématique.
C'est quand même problématique. Donc, ce que tu as, c'est une cumulation de problèmes. Et il y a une cerise sur le sundae, c'est que nous citer la Norvège, c'est absolument insultant, je trouve, comme point, parce qu'ils oublient de mentionner une chose qui est super connue. L'exemple norvégien, il y a une règle stricte. Il n'y a pas d'investissement domestique qui sont faits avec le fonds souverain.
Oui, justement donc, pour couper ça. Là.
Exactement. Et donc, ça réduit la capture politique, ça réduit le problème de bulle domestique, ça réduit les problèmes de mauvaise allocation du capital et ça réduit le problème des pressions politiques. Il y a une série d'immunisations. Présentement, M. Carney a dit dès le début que c'est pas ça qu'il allait faire. Il allait pas faire cette règle-là qui est celle de la Norvège, c'est que ça va être utilisé pour investir. Ou bon, le ministère de... J'allais dire le ministère de l'Industrie, mais je sais qu'ils ont changé le nom. Peu importe qui est l'agent en charge ou où il décide de le placer.
Selon ses bonnes volontés.
Et ça, c'est encore plus inquiétant parce que tu viens de nous dire que tu vas même pas te commettre à l'idée d'essayer de limiter, ne serait-ce qu'en façade, les problèmes que je viens de mentionner de connaissance et de conflits entre intérêts économiques et intérêts politiques.
Mais quand t'as 50 % des intentions de vote, ben vogue la galère, Vincent. On est un peu serré dans le temps, mais merci. Je pense qu'on a fait une bonne synthèse. Je pense que le point est fait. Merci.
Comme disait Dunlap à McLaren, quand j'ai le temps.
Hein? Oui, t'avais le temps un petit peu. Salut.
J'avais le temps.
Vincent Geloso, mesdames, messieurs. On fait une pause. On revient.
Ouellette. Bon. En direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.